Postal, le magazine du voyage. Direction le Grand Nord ce matin dans Carte Postale. C'est un voyage culturel et spirituel que je vous propose aujourd'hui à travers l'art inuit et surtout à travers un ouvrage qui est paru il y a 2 ans. C'est la culture donc de ce peuple premier, ce peuple ancestral, ce peuple du Grand Nord, une grande culture que nous allons découvrir ce matin. Le livre « Les objets messagers de la pensée inuite » et c'est un livre paru aux éditions de l'Harmattan et j'ai le grand plaisir et l'honneur aussi de recevoir son auteur. Il s'agit de Julia Boliolo Bruna, qui est doctoresse lettres, ethno-historienne, qui est écrivain, membre du Centre d'études arctiques fondé et présidé par le professeur Jean Mallory, qui nous a fait la joie de nous accorder quelques entretiens l'année dernière, et qui est l'amie de Julia. Julia, bonjour.
Bonjour Léa.
Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette culture inuite. Mais juste avant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Dans votre ouvrage qui a été préfacé par le professeur Mallory, il est dit quelque chose qui fera le lien, c'est une petite parenthèse que je fais, une petite anecdote, qui fera le lien avec la communauté juive. En effet, le professeur Mallory rapporte les propos d'un missionnaire. Ce missionnaire, c'est Hans Egede, il est danois et il a écrit un livre au 18e siècle. Il est historien de la diaspora juive et il va par la suite à la rencontre des Inuits. Et voici ce qu'il dit, Julia, on le trouve dans votre livre. Les Inuits ont des usages judaïques, comme de pleurer sa virginité, se faire des marques sur la peau, ou de se couper les cheveux en rond, comme le Seigneur l'ordonna aux enfants d'Israël. Je continue de citer. Quand je fais réflexion à ces choses et à beaucoup d'autres, il est un usage chez eux qui semble venir du judaïsme. Voilà ce que rapporte le professeur Mallory dans votre livre. Alors, c'est peut-être une anecdote. Le professeur Mallory dit que cette histoire rien de la diaspora s'égare un peu, Julia.
Déjà, bonjour Léa, je suis heureuse d'être invitée par une radio si prestigieuse et si humaniste. Et en quelques mots, alors, moi je me suis consacrée à l'étude des littératures de voyage, donc au récit, notamment aussi au récit de Hans Egede, et à la cartographie de l'imaginaire. On dit qu'on ne va pas au nord, mais qu'on monte au nord. Hein? Mm-hmm. Et le Grand Nord était toujours perçu, soit dans la mythologie de l'Antiquité, soit aussi dans la littérature vétro-testamentaire, donc les Saintes Écritures et la Bible, et comme un espace qui est à la fois physique et transphysique, alors, qui est mythopoétique et en même temps où peuvent coexister à la fois l'enfer blanc et le paradis terrestre. Mmh. Il y a des humanités qui sont immortelles, les hyperboréens béati, mais de l'autre côté, on a aussi des pygmées, c'est-à-dire des races pliniennes. Et ces races pliniennes sont souvent farouches, sont des hybrides, hommes à tête de chien, cynocéphales. Ouais. Donc, cette représentation fait si qu'il y a à un moment donné aussi le juif errant.
Oui.
Et dans cette image du juif errant, qui est l'autre ? Faire attention, c'est toujours l'autre et c'est toujours dans une vision dépréciative. Mmh. Mmh. Et moi, dans mes travaux, qui sont liés aussi à la construction de l'image des Inuits au fil des siècles, alors j'ai dénoncé cette ambivalence. Mmh. Hein, d'un côté, c'est pour certaines, l'image de l'homo faber, celui qui sait bien construire les kayaks, c'est l'homme qui sait construire les kayaks, l'anorak, donc c'est très industrieux, mais dépourvu d'intelligence, de sentiments, etc. Ou sinon, c'est une image de l'altérité, mais d'une altérité incomprise.
Mmh. Donc vous voulez dire par là que Hans Egede, ce missionnaire, s'égare effectivement parce qu'il a une méconnaissance.
Au fond, il procède, je ne dirais même pas ça, je dirais que lui, il procède par une forme d'analogie. Vous comprenez?
Ouais.
C'est-à-dire, ils sont comme, ils ressemblent. Tandis que chez d'autres voyageurs, il y a un jugement qui est vraiment péjoratif. C'est-à-dire, c'est des animaux humains, je cite. Oui. C'est les sauvages des sauvages, et c'est les lumières. Oui. Oui, oui. Donc, c'est dans l'encyclopédie. Oui. C'est une image, au fond, qui nous interpelle beaucoup, parce qu'elle se racialise dans le temps aussi.
Absolument.
Et quand elle se racialise, elle aboutit aussi à une forme de racisme, qui est biologique et culturel. Or, les grands, je dirais, ethnologues tels M. Mallory ont compris la richesse de ce, Lévi-Strauss, la richesse de ce qu'on appelle la pensée sauvage. Mais la pensée sauvage est d'une extrême complexité, d'une extrême richesse. Et surtout, les Inuits ont, traditionnels, mais ont élaboré une philosophie naturelle, une philosophie écosophique à laquelle il faudrait s'inspirer.
Alors, vous, Julia, vous êtes donc, comme je l'ai dit, spécialiste de cette pensée inuite, et vous avez donc, dans votre parcours, vous vous êtes intéressée aux Inuits à travers l'art. Est-ce que cela veut dire que les objets sont plus parlants que les écrits ?
Alors, là, je résume mon petit parcours.
Oui.
Je suis, et là aussi, grâce à Jean Mallory, à la rencontre avec Jean Mallory, qui était fondamental, parce que c'est un homme qui est un humaniste, c'est pas qu'un savant, c'est un homme qui vous transmet des valeurs, qui vous fait participer d'une certaine philosophie de vie dont le chercheur a besoin. Il m'a demandé, Mallory, Julia, laissez tomber l'érudition. Au début, moi, je pensais que cette érudition était très importante. Oui, elle est importante, mais il faut autre chose. Il m'a dit, explorez les cartes, explorez les textes, explorez les images, essayez de lire les non-dits. Questionnez-vous. Et il avait tout à fait raison. Donc, je suis passée d'une étude entre guillemets, savant, de la cartographie, de l'imaginaire, à la Renaissance, la littérature de voyage, de la Renaissance aux Lumières, pour me questionner, dire, il faut que j'essaie de faire parler les textes. Et là, c'était la construction de l'image, c'était le regard que les Européennes portaient sur les Inuits. De l'autre côté, c'est comment puis-je approcher un peuple qui s'est exprimé pas par le livre, mais par l'oralité et par les objets. Or, vous savez, l'oralité, même si vous faites vous essayez de connaître, recueillir les mythes, etc., il y a toujours besoin d'un interprète. Souvent, le traducteur est traditeur, donc vous savez très bien que même avec toute la bonne volonté, on perd des pans. De cette
sens.
Culture, du
oui,
sens,
le
du sens,
sens
du
oui.
sens, de la signification profonde. Oui. Or, les objets parlent, à mon sens, mieux que certains textes qui n'ont pas été écrits par les Inuits, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas l'écrire. Et alors là, vous avez des objets, il faut les questionner comme un fait social total. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que elles sont à la fois des vestiges mémoriels, de la mémoire. Elles passent par ces objets-là. Et ils sont émetteurs de sens. Ça, c'est très important. Ils sont des puissants traceurs identitaires d'un peuple. Alors, et ils sont la transcription plastique, sculpturale, d'une pensée qui est chamanique, c'est-à-dire fondée sur la communion entre les vivants, les défunts, les animaux, les esprits. Pour les Inuits, les esprits sont omniprésents. Le réel est double. Il est visible et invisible. Il faut aller au-delà du miroir. Il faut entrer donc dans une autre philosophie, dans une autre conception. Et surtout, apprendre que les Inuits, avant tout, sont un peuple assoiffé de sacré, c'est-à-dire c'est un peuple religieux. Si je veux comprendre ce qu'on appelle, et ce n'est pas correct, l'art inuit traditionnel, du Dorsey, du Thule, parce que chez les Inuits, il n'y a pas de notion de l'art pour l'art, comme plaisir esthétique.
La beauté, c'est inutile pour eux. Ils ne comprennent pas ça.
Ce qu'ils ont, c'est une pulsion. La beauté et le plaisir esthétique qui est inné. Donc, tous les peuples, les Inuits aussi. En plus, c'est un peuple qui il arrive à une perfection dans la gravure, dans la sculpture extraordinaire. Donc, il connaît le beau. Mais il ne le totemise pas. C'est-à-dire, il dit, il me faut pas un beau idéal. Parce que je suis un peuple pauvre, démuni. Je vis dans un environnement qui est prohibitif. Oui. Donc, j'ai besoin d'une esthétique de la fonctionnalité.
C'est ça. Donc, ce sont des objets.
D'une beauté utile.
Usuels, mais à la fois, ce sont de beaux objets, c'est de l'art, c'est de l'esthétique, mais usuelle.
Exactement. C'est-à-dire, les figurines, je vous donne des exemples, mm-hmm. c'est des miniatures. Oui. Déjà, c'est un peuple nomade. Ouais. Donc, alors, et c'est un peuple qui est donc très religieux. Donc, il y a ces figurines qui soient des animalières, zoos anthropomorphes ou des hybrides, ils nous racontent, c'est des messages qu'ils nous envoient. Qu'est-ce qu'ils nous envoient? Ils nous parlent du temps des origines, le temps du métamorphisme et de l'indifférenciation. Ouais. Alors, ils nous parlent aussi d'une philosophie naturelle qui fait si que l'homme n'a pas une vision, chez les humains, il n'y a pas de vision anthropocentrique. L'homme n'est qu'une petite partie d'un tout. C'est un instant dans le devenir, c'est une parcelle de la nature, d'une nature qui est unitaire, qui est vivante, qui est dynamique, qui est en perpétuelle métamorphose.
Mmh. Et tout cela, ça, ils arrivent à le retranscrire, si je puis dire, à travers ces objets, c'est-à-dire que vous sentez dans ces objets cette vision multidimensionnelle.
Ce qui se passe, c'est qu'avant tout, il faut apprendre, à mon sens, la grammaire visuelle de l'autre. Il faut s'ouvrir à l'autre. Il faut humblement essayer d'approcher la culture de l'autre. Mmh. Et cela vaut pour les Inuits, bien évidemment. Oui. Alors, vous connaissez les mythes, vous parlez le biais et aussi au travers des œuvres fondamentales, celles de Monsieur Mallory, vous avez la possibilité de commencer à approcher la richesse de cette pensée. Mmh. Après, quand vous parlez de chamanisme, vous savez que ces objets, souvent, sont des objets qui sont dotés d'un pouvoir. Mmh. La miniature qui tient au creux de la main, c'est une petite pensée, vous voyez, c'est une prière presque, vous comprenez, pour communiquer avec quoi? Avec les forces de la nature, parce qu'il n'y a pas de dieu créateur chez les Inuits, c'est la nature. Et la nature n'est qu'un perpétuel recommencement. Ils sont dans une vision cyclique, vous voyez. Ce qui fait que l'Inuit traditionnel est très respectueux. Mais il a besoin aussi d'avoir une aide. Cette aide vient de ces petits objets qui sont des amulettes. Mm-hmm. Donc, il y a l'angalouk, qui est la ceinture du chaman. Il y a tous les objets, tous les animaux, des animaux qu'on dirait réels. Ils sont reproduits avec une perfection incroyable. Mais des animaux qu'on ne connaît pas, on dirait des animaux fabuleux. Au lieu de dire des fabuleux, c'est leur vision du monde. Mmh. Parce qu'au temps des origines, il y avait la possibilité d'une métamorphose. Les hommes pouvaient se métamorphoser en animaux et les animaux en hommes. Ils parlaient la même langue et ils avaient tous les deux une âme qu'on appelait une inua. Et c'est fondamental de penser que c'est ce temps-là, qui est un temps malheureusement en gros révolu, fait si que tout ce qu'il est inaccompli, ce sera le cas des Tupilait, des objets, des petits monstres aux traits sataniques et diaboliques quand il y aura la rencontre avec le christianisme, donc des imaginaires vont se mélanger.
Il y aura à ce moment-là métissage,
il y aura.
On continue, Julia, d'en parler dans un instant juste après la pause. On se retrouve dans la seconde partie de Carte Postale. Et ce matin, dans Carte Postale, nous sommes en plein dans le Grand Nord et nous nous intéressons à cette culture, la culture de ce peuple premier, les Inuits. Et j'ai avec moi le grand plaisir et l'honneur d'accueillir cette spécialiste de la pensée Inuit. Il s'agit de Julia Boliolo-Bruna qui a rédigé ce livre il y a 2 ans, Les objets messagers de la pensée Inuit, paru aux éditions de l'Harmattan. Et dans ce livre, Julia, eh bien, vous percez un peu le mystère de cette pensée inuite à travers ces objets. Et vous venez de le dire, ce sont des objets, c'est de l'art, mais ça n'est pas que beau, c'est aussi utile. Ce sont des objets usuels, mais parce que pour eux, la beauté, elle vient naturellement, elle vient de tout ce qui nous entoure. On ne fabrique pas du beau, la beauté est là, il suffit de la voir. Ces objets usuels, c'est par exemple quoi? Ce sont des objets de toilette, qu'est-ce que c'est?
Alors là, il faudra déjà brièvement percer le mystère de ce qu'on appelle l'art inuit et que moi je préfère utiliser le mot sananguak, qui signifie réplique miniaturisée d'un réel à la fois visible et invisible.
C'est ça.
C'est aninuktitut. Donc, c'est une définition. Qu'est-ce que c'est donc l'objet? Alors, l'objet, il y a la miniature, on l'a dit, les miniatures animalières, zoo, anthropomorphes, hybrides, etc. Certaines sont dotées d'un pouvoir, c'est-à-dire sont des talismans, des amulettes. Mm-hmm. Certaines ont une valeur, qui est une valeur, par exemple, socio-éducative. Des petites poupées. Hein, mm-hmm. Des petits kayaks. Pourquoi? Parce qu'il y a transmission de savoir. C'est une transmission intergénérationnelle. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'enfant regarde le papa qui est en train de fabriquer et de construire son kayak. Et après, à travers l'objet, le jouet, on dirait, apprend.
Ouais.
C'est à travers ses jouets, il apprend. Ainsi qu'il y a
C'est un objet pédagogique.
Pédagogique, ainsi que la division genrée du travail. Mm-hmm. Pour faire, vous voyez, c'est très important.
C'est ça permet une socialisation de l'enfant.
De l'enfant, et en même temps, l'enfant, il fait partie du groupe, pas seulement de la famille, du groupe. Mm-hmm. Et il y a un énorme respect pour l'enfant. Vous voyez, l'enfant est roi, dit Jean-Mallory chez les Inuits. Bon. Et ça, c'est une dimension qui est très importante. Mmh. Il y a une dimension rituelle dans les rituels chamaniques. Il y a donc, c'est des supports. Mmh. Mais il y a aussi l'objet usuel, le harpon, même, qui le peigne, qui est décoré. Mm-hmm. Mais décoré avec des motifs qui sont merveilleux. Et qui alors là, pour les historiens de l'art, c'est une merveille, parce que vous avez la page, ils sont géométriques, ils sont stylisés, ils sont naturalistes.
C'est en os, c'est en quelle matière?
Les matières, c'est en os, pierre et ivoire. Mm-hmm. Alors là, il y a le choix. Et ce qui est important, c'est que ce peuple, il n'avait pas d'objets métalliques pour sculpter. Oui. Quand je parle du Dorset, je parle 1000 avant Jésus-Christ, 1000 après Jésus-Christ.
Ah oui.
Tous les, c'est 1000 après Jésus-Christ, 1600, 1700 après Jésus-Christ. Uh-huh. Ce qui vous fait comprendre l'exploit technique.
Eh oui.
Mais moi, je ne voudrais pas me limiter à l'exploit technique, parce que ce serait quand même réduire l'importance. Oui, du point de vue esthétique, c'est des merveilles. Mmh. Et il y a un masquette qui a été exposé au Quai Branly quand il y a eu une très belle exposition sur l'art inuit, qui est tout petite.
Ouais.
Elle est petite comme une pouce.
Oui.
Mais, un pouce. Mais vous avez là une force, elle est hiératique, elle a un pouvoir, elle vous entraîne dans d'autres mondes, au-delà, vous voyez, elle vous parle de l'esprit, elle vous parle de rapport à la nature, je voudrais dire, chez les Inuits, il n'y a pas d'altérité d'essence, c'est-à-dire l'essence, la substance, c'est la même. L'homme, l'animal, la plante.
On est tous un, finalement.
Sont constitués d'une même substance. C'est la forme qui change. Mmh. Alors, il y a un ballet de formes, mais la substance est toujours la même. Mmh. Et la matière est vivante, la matière est animée.
Sent aussi qu'il y a un immense respect envers leur mode de vie, parce que pour accorder autant d'attention pour ces petits objets, il y a ce respect de leur lieu de vie, de la nature, quelque chose que nous avons perdu peut-être aussi en Occident.
Nous avons déjà une fracture ontologique entre les règnes chez nous. Mmh. Chez eux, il y a il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de hiatus. Alors,
pas de hiérarchie.
Pas de hiérarchie. Donc, c'est le vivant. Mmh. Et c'est le respect du vivant. Mmh. Et donc, vis-à-vis de cette nature, il y a des formes de prières. Et ces prières sont ces objets aussi, qui nous parlent de cette philosophie, qui est une philosophie écosophique. C'est-à-dire, l'homme n'a aucune centralité. C'est un élément parmi les éléments. Vous comprenez?
Ouais.
Et c'est pour cette raison qu'il faudrait s'inspirer à leur philosophie naturelle.
Ouais.
Parce que là, en plein réchauffement climatique, avec tous les dégâts qui en découlent, etc., ils sont les premiers victimes.
Mm-hmm.
Parce que désormais, les pôles ne sont plus des zones luminaires. Mais ce sont devenus des zones centrales dans ces problèmes vous venez d'en parler avec...
Avec Jean-François, les pieds sur terre.
Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais quand même, c'est très important.
C'est pour ça que vous dites que c'est une philosophie d'une grande actualité.
Grande actualité.
Ouais.
Il faudrait quand même, au travers de la pensée inuite, du rapport que les Inuits, qui étaient des chasseurs, mais pas des prédateurs, c'est différent, et qui avaient comme totem l'ordre. Et l'ordre, c'est l'équilibre. Mm-hmm. Il faut respecter les équilibres écosystémiques.
Mm-hmm.
Et il faut, dans ce respect vis-à-vis de la nature, je vous donne un exemple. Chez les Inuits, quand il y a faute, la faute est collective. C'est-à-dire, j'ai faute, mais c'est le groupe qui va être lui aussi en difficulté. Car la nature se venge. Mm-hmm. Mallory le dit dans Terre-Mère, que je viens de traduire
en
italien et préfacé. Elle dit, la terre se venge. Elle est en colère. Et l'homme ne comprend pas. Il continue dans sa bêtise. Bon, les Inuits savent. Et donc, il y a toute une série, à l'époque, il y avait toute une série de tabous qu'il fallait respecter, etc. Mais quand ils savent qu'il y a eu rupture, qu'il y a eu un problème, qu'ils ont, entre guillemets, péché, mm-hmm. qu'est-ce que c'est? C'est l'angakok, le chaman, qui essaie de rétablir l'ordre
mm-hmm.
avec ses vols. Et les objets messagers de la pensée inuite, souvent, parlent des vols chamaniques.
Mm-hmm.
Quand vous voyez un ours au squelette apparent, il est superbement réalisé parce que c'est vraiment l'anatomie d'un ours.
Mm-hmm.
Mais quelle est sa signification?
Ouais.
C'est le chaman qui est en train de se métamorphoser en anouk, mm-hmm. en ours. C'est le rituel chamanique, vous comprenez?
Ouais.
Quand vous voyez un ours à deux têtes, ce n'est pas un monstre, c'est un détail qui pointe sens et vous dit c'est un chaman.
Mm-hmm.
Parce que c'est typique, le double tête.
Alors,
le retrouver aussi dans l'art contemporain.
Oui.
Moi, je n'analyse pas dans mon livre l'art contemporain, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir quelles sont les survivances, les résurgences d'une pensée chamanique,
mm-hmm.
Chamanique religieuse. Et je la retrouve
objets,
dans les peintures, parce que là, maintenant, il s'exprime aussi à travers
différentes
formes.
Aujourd'hui, il y a eu, j'imagine, puisque ce sont des peuples qui ont été approchés par les explorateurs pendant des années, par ces missionnaires dont on parlait en début d'émission, ces objets ont connu, j'imagine, un métissage. Est-ce qu'aujourd'hui, l'art inuit est toujours autant représentatif de la pensée originelle?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les rencontres dans le Grand Nord, cet espace immense, n'ont pas été isochrones, c'est-à-dire ne sont pas advenues au même moment. Donc, au 16e, dans certains, 17e, dans d'autres endroits. Donc, à ce moment-là, il y a des différences entre les groupes inuits. Il ne faut pas penser que tout est uniforme. Déjà. Et quand il y a eu la rencontre ou mésencontre, ça dépend des cadres, avec les Blancs, avec les Européennes, il y a eu un transfert de savoir, de connaissances, etc. Ce savoir, donc, par un processus qui est un processus de négociation.